Bible de l'humanité, 2, la Perse, chapitre 1, la terre, l'arbre de vie. La Perse n'a point de caste. Tous sont égaux chez elle au point de vue religieux. Tous également sont et s'appellent les purs. Chacun, pontife en sa maison, officie et prie pour les siens. La Perse n'a point de temple, point de cérémonie, de culte que la prière et la parole. Point de mythologie, nulle poésie imaginative, tout vrai, positif, grave et fort. L'énergie dans la sainteté. Notez une vigueur précoce de sagesse et de bon sens. Le feu n'est plus un dieu, mais un symbole, l'esprit bienveillant du foyer. L'animal est, non pas glorifié, mais aimé, bien traité et magnanimement, selon son rang dans la maison, sa place dans l'échelle des âmes. La loi simple, humaine entre toutes, que la Perse a laissée, que rien n'a surpassée, la loi vivante toujours et qui reste toujours la voie de l'avenir, c'est l'agriculture héroïque, le courageux effort du bien contre le mal, la vie de pure lumière dans le travail et la justice. De là une morale d'homme et de travailleur, non d'oisifs, de brahmes ou de moines, une morale non d'abstention ni de rêverie, mais active, d'énergie féconde. Elle est tout en ceci, soit pur pour être fort, soit fort pour être créateur. Dès minuit, le feu pâlissant s'inquiète, réveille le chef de famille, dit « Lève-toi, mets tes habits, lave tes mains, apporte le bois pur qui me fera briller. Autrement, les mauvais esprits pourraient se glisser et m'éteindre. Il se lève, prend ses vêtements, et il ranime le feu, lui donne sa nourriture. La maison resplendit. Si les rôdeurs, les esprits des ténèbres errent, déguisés en chacals, en couleuvres, ils feront bien de s'éloigner. Le brillant esprit du foyer veille, et près de lui son hôte, qui déjà anticipe l'aube, médite les travaux du matin. Le pur, l'irréprochable feu le garde, lui, sa maison, son âme, ne permettant que de sages, fortes et courageuses pensées. Quelles ? Disons-le d'un mot. Rends à tous ce qui est leur droit. Donne au feu, à la terre, l'aliment légitime. Fais justice à la plante, au taureau, au cheval. Ne sois pas ingrat pour le chien. Et prends garde que la vache ne mugisse contre toi. La terre a droit à la semence. Négligée, elle le maudit. Fécondée, remercie. À l'homme qui l'aura remué de gauche à droite et de droite à gauche, elle dira « Que tes champs portent tout ce qui est bon à manger, que tes villages nombreux soient abondants dans tout bien. À l'homme qui ne la remue pas de gauche à droite et de droite à gauche, elle dit que les mets purs soient loin de toi et que le démon te tourmente. Puisse ton champ pour nourriture ne te donner que des frayeurs. Honneur, hommage à la terre. La terre, la sainte femelle qui porte l'homme, elle exige les bonnes œuvres. Hommage aux sources d'ardinosaures qui font que les femelles pures conçoivent pour enfanter. Des bonnes œuvres, la première est de désaltérer la terre, de lui venir en aide, d'y ramener sans cesse la vie et la fraîcheur. C'est la créer en quelque sorte. La Perse n'est pas comme l'Égypte, un don du Nil. Ses torrents passent et la laissent altérer. La terre se meurt, se fend. Il faut chercher les eaux, il faut les deviner, il faut les évoquer du fond obscur de la montagne, les amener à la lumière. C'est le rêve de l'homme et le paradis de ses songes. La voir jaillir du roc, sourdre du sable aride, la voir fraîche et légère courir, gazouiller, murmurer. Il se relève encore, il dit « Je prie, invoque toutes les eaux. Source qui, du fond de la terre, montez et bouillonnez, beaux canaux nourrissants, moelleuse eau limpide, douce eau courante, qui multipliait l'arbre et qui purifiait le désir, soyez bonne et coulez pour nous. L'aube est venue, l'homme se lève, et du fer, la courte épée ou bien le poignard qu'on voit au monument, devant le soleil ami, il ouvre et fouille la terre, lui fait la salutaire blessure. Dans la profondeur du sillon, il verse la bonne semence. Tous les purs sont avec l'homme. L'aigle, l'épervier le salue à leur premier cri du jour. Le chien le suit et l'escorte. Le cheval joyeux ennemi. Le fort taureau de bon cœur tire la charrue et souffle. La terre fume, sa vivante haleine répond de sa fécondité. Tous d'accord, tous savent que l'homme est juste et travaille pour eux. Il est la conscience commune. Il semble qu'il fait l'œuvre haute qui, en nourrissant le corps et le faisant communier des forces de la nature, doit aussi soutenir l'âme. Il dit avec un positif qui pourtant n'est pas sans grandeur, il dit avec un bon sens rude et fort qui va au but, si l'on mange, on écoutera mieux la parole sacrée. Si l'on ne mange, on sera sans force pour les œuvres pures. Si l'on a faim, point de robustes enfants, point de vaillants laboureurs. Tel qu'il existe, ce monde n'existe que par la nourriture. Puis, s'exaltant par l'effort, le travail persévérant, par son courage plus grand devant le soleil qui monte, il se dit « laboure et sème ». Qui sème avec pureté accomplit toute la loi. Celui qui donne à la terre du grain fort est aussi grand que s'il avait fait 10 000 sacrifices. Et la terre lui répond « oui ». En quelle langue ? En la sienne propre. Elle répond en grain doré tous les ans. Ayez patience, donnez-lui quelques années. Elle répond de plus en plus par un être nouveau, puissant, robuste et qui grandit toujours. Il est déjà de taille d'homme et, à la saison qui suit, le voilà plus haut que l'homme. Riche, abondant, reconnaissant, il lui tend ses branches et ses feuilles, lui offre à midi la chose désirée, le bienfait de l'ombre, une protection tutélaire contre le ciel embrasé, l'abri et la vie sans doute. Mais le soleil descend un peu. L'homme, avant de reprendre le travail, se tourne vers son bienfaiteur et dit « Salut, arbre de vie !» Il est venu de la terre. Mais moi, d'où suis-je venu ? De mon père. Mais le premier père. À cette question profonde qui occupe sa rêverie sur le sillon muet du soir, il répond par les deux forces qu'il connaît. Force de jeunesse dans l'arbre toujours renouvelé, force d'action, de travail, dans son compagnon, le taureau. Si l'homme fort ne vient du taureau, peut-être est-il né de l'arbre. Celui-ci qui vit si longtemps, n'est-il pas la vie d'autrefois et la vie de l'avenir ? Bref, la vie, l'immortelle vie. L'arbre, c'est l'immortalité. Son nom sacré, c'est Omma. Non le soma léger de l'Inde, la plante tombée du ciel, qui, pétillant dans le feu, remonte joyeuse au ciel et s'en va nourrir les dieux. Celui-ci, le robuste Omma, solidement fondé dans la terre, est l'immortel arbre de vie, le fort. Pour être fort aussi, l'homme doit manger ses pommes d'or. Ou bien, les broyant, il en tire le jus puissant, la liqueur qui met l'âme en bon chemin. Et ne vous figurez pas que ce soit pure allégorie. On dit et redit dans la loi que Omma est mangé, veut l'être, que lui-même incline ses branches pour qu'on mange ses fruits d'or. ce sont les héros de la Perse qui, les premiers de leurs glorieuses mains, broient et font fermenter au mât. Dès lors, écumeux, frémissant, il se fait entendre, il parle, il ferait parler les pierres, il est la parole même. Miracle suprême chez un peuple de gravité silencieuse, dont la langue cyclopéenne, informe et avare de mots, est, si l'on ose le dire, un idiome de muet. Le laboureur qui, tout le jour, sur son sillon, derrière ses bœufs, et le soir, fatigué, repose, a besoin de peu de paroles. Autant l'hindou a la langue fluide à affiner son sanskrit, autant la Perse a conservé, par le respect, par le silence, son vieux Inde. Si ce muet parle, c'est Homma qui parle en lui. Parole et lumière sont deux mots identiques dans la primitive langue sacrée. Et ce n'est pas sans raison. La lumière est pour ainsi dire le verbe de la nature. Et la parole, à son tour, est la lumière de l'esprit. L'univers écoute et répond. Un éternel dialogue se fait de la nature à l'âme. Si l'âme ne traduisait, n'illuminait ce que dit l'autre, cette nature incomprise, obscure, serait comme n'étant pas. La lumière parole, Homma, est le soutien de l'existence. Incessamment, elle l'évoque. Elle nomme un à un tous les êtres pour leur assurer la vie. Tout nom est une incantation pour éveiller, susciter celui qui pourrait s'endormir, retomber dans le néant. Une telle foi met l'homme bien haut. Que ce chef de famille, levé en pleine nuit, quand la femme et l'enfant dorment, prononce par devant le feu les mots qui vivifient le monde. En vérité, cela est grand. Quelle sera la gravité, la sainteté de celui qui se sent si nécessaire à l'existence universelle? Dans le silence de minuit, seul, il se sent en accord avec toutes les tribus des purs qui, à cette heure, disent aussi la même parole de vie. Point de caste, point de marge, point de royauté encore. Le père, dans chaque maison, est roi mage. Il est bien plus le conservateur des êtres, le sauveur de toute vie. La puissance extraordinaire que l'Inde donne à un rishi, au grand roi Vishvamitra, ici la voilà dans tous, dans le moindre laboureur. Celui qui, le matin, par la main et le soc, engendre dans la terre, la nuit, par la parole, crée encore, engendre le monde dont la vie incertaine est suspendue à sa prière.